Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Après des mois de réflexion, Emmanuel Macron a dévoilé dans la presse ses arbitrages sur un modèle français de la fin de vie. Ni euthanasie, ni suicide assisté, affirme le chef de l'État. Il s'agira, selon ses termes, d'une aide à mourir. Elle permettra à certains patients de recevoir une substance létale.
La personne soit s'administre le produit, soit c'est un paramédical qui le fait, soit en l'état du texte, je dis bien en l'état du texte, ça peut effectivement être un proche déterminé par le patient.
Le projet de loi qui sera examiné fin mai à l'Assemblée fixe quatre conditions très strictes. Le patient doit être majeur, il doit disposer d'un discernement plein et entier, être atteint d'un mal incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et être confronté à des douleurs réfractaires au traitement. Les partisans de l'aide à mourir saluent cette loi, comme Charles Bietri, ancien patron des sports de Canal+.
La maladie de Charcot m'a déjà privé de l'usage des jambes et de la parole. Bientôt, ce sera la respiration, accompagnée de souffrances pour moi et les miens. Cette loi peut nous offrir liberté et dignité. Merci.
La demande d'aide à mourir devra être acceptée et décidée par un collège de médecins. Des associations émettent des réserves sur ce dispositif.
Il va falloir préciser les choses et en tout cas le Parlement va devoir avancer là-dessus parce qu'un collège de médecins, on sait que ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, le président reconnaît lui-même que si ce collège n'est pas d'accord, on va en demander à un autre.
Les soignants apparaissent divisés. Plusieurs organisations exerçant en soins palliatifs ou auprès des personnes fragiles ne cachent pas leur inquiétude.
Nous sommes une société et une civilisation d'entraide et entrouvrir la porte sur l'aide à mourir, c'est une rupture. Nous ne savons pas où nous allons aller.
Alors, dangereuse avancée ou progrès? La future loi pour une aide à mourir est-elle équilibrée? Répond-elle aux attentes des Français?
Nos trois invités pour ce débat crucial. Anne de la Tour, bonsoir madame, vous êtes médecin, vous êtes présidente de la commission médicale de la maison Jeanne Garnier, la plus grande unité de soins palliatifs de France et d'Europe. Selon vous, ce projet de loi de mort provoquée, c'est triste. En soins palliatifs, nous soignons, ajoutez-vous, des malades. Nous n'avons pas l'habitude de les tuer et s'ils viennent chez nous, c'est bien parce qu'ils espèrent vivre. À côté de vous, Jonathan Denis, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Vous faites paraître le 28 mars prochain aux éditions du Cherche Midi un essai « Mourir dans la dignité, plaidoyer pour la dernière des libertés ». Et selon vous, il y a une avancée. C'est la première fois que l'on parle d'aide à mourir. L'aide à mourir est un soin ultime, ajoutez-vous, mais il faut respecter la volonté des soignants. Il faudra une clause de conscience. Et enfin, Nathalie Rollin, bonsoir madame. Vous êtes reporter à Libération en charge des questions de santé. Vous avez réalisé avec trois autres journalistes la fameuse interview d'Emmanuel Macron parue hier matin dans Libé et dans La Croix sur la fin de vie. Selon vous, concrètement, c'est le suicide assisté que propose Emmanuel Macron aujourd'hui avec la loi actuelle, un patient incurable en fin de vie à peu de chance de voir abréger son calvaire. Et on va démarrer ce débat avec la phrase du
Justement,
jour.
Oui. Ben voilà. Avec ce texte, on regarde la mort en face. Elle est signée donc Emmanuel Macron dans l'entretien publié hier conjointement par votre journal Libération et par La Croix pour annoncer le projet de loi sur la fin de vie. Une loi de fraternité qui permet de choisir le moindre mal quand la mort est déjà là, dit aussi le chef de l'État dans cet entretien. Jonathan Denis, c'est l'avancée que vous attendiez ?
Alors, c'est pas l'avancée qu'on attendait, mais effectivement, moi je reconnais qu'il y a une avancée. Pour la première fois, il y a un projet de loi. Bon, le président parle de moindre mal. Moi, je pense pas que ce soit une question de bien ou de mal. On n'est pas sur la morale, on est sur une question de justice ou d'injustice pour moi, mais il y a une avancée, il faut le reconnaître. Il y aura trois volets, les soins palliatifs, les droits des patients, l'aide à mourir. Il y a beaucoup encore à en dire sur les trois volets. Et puis ensuite, c'est aux parlementaires de faire évoluer le texte. Le président l'a dit, ce sera très certainement un texte à minima. Voyons ce que donnera l'Assemblée et le Sénat ensuite.
Une loi de fraternité, a dit également Emmanuel Macron, Anne de la Tour. Vous pensez qu'il s'agit d'un projet de loi qui rentre dans une notion de loi de fraternité ?
Moi, je trouve ça très étonnant qu'on décline la fraternité en donnant la mort à des malades. Donc, je ne vois pas là le mot fraternité. Je vois plutôt notre médecine palliative au quotidien. Je dis bien médecine palliative, soins palliatifs et pas qu'accompagnement. Nous accompagnons depuis 35 ans en France et depuis 150 ans la maison médicale Jeanne Garnier, puisqu'on va fêter les 150 ans cette année. Et donc, en fait, la fraternité, pour moi, c'est le quotidien de nos soins, c'est tous les jours. On n'a pas besoin d'une loi pour exercer la fraternité, en tout cas, pas celle qui entraîne la mort.
Et sur la sémantique utilisée, le lexique utilisé par Emmanuel Macron, juste, aide à mourir, ça vous
dit ? Alors, moi, je suis très déçue.
Et ensuite, Anatole Grelin,
je suis très déçue parce que je ne comprends pas, j'ai beaucoup d'estime pour notre président, quand même, et je ne comprends pas qu'il ait pu tomber dans le piège de la confusion. Et pour moi, quand il y a confusion, il y a manipulation quelque part. Et donc, je ne trouve pas ça juste. On emploie des mots. Quand on travaille à l'étranger, ce qui est notre cas en médecine palliative, nous sommes avec d'autres pays. Nous savons très bien nommer ce qui est du suicide assisté, de ce qui est de l'euthanasie. Et si les Français commencent à parler de l'accompagnement, notre pédicure aussi, elle fait de l'accompagnement. Hein. Donc, on va être dans un no man's land complètement flou. La France ne va plus être représentée. Et ça, c'est un vrai souci. On veut créer l'Europe, mais là, on est en train de mettre de côté la France en étant flou dans la sémantique.
Nathalie Rollin, alors on entend que l'aide à mourir, ça peut choquer, mais d'autres disent que le président de la République, il n'est pas allé assez loin dans les termes qu'il n'a pas utilisés, le mot suicide assisté ou euthanasie, qu'il a alors, évité les mots du débat.
Pour revenir une seconde sur l'aide à mourir telle qu'il l'a présentée, et non pas aide active à mourir comme c'est souvent... Je pense que c'est aussi partie du constat que les Français ne se sont pas appropriés les termes techniques, celui de suicide assisté, celui d'euthanasie médicalement assistée, celui de sédation profonde et continue jusqu'au décès qui avait été mis dans la loi Claeys-Leonetti en 2016. C'est un vocabulaire qui est étranger au plus grand nombre. Ce que sont capables d'exprimer les Français et ce qu'ils expriment à leurs médecins assez facilement, c'est l'aide à mourir. Mais il s'est trouvé, il se trouve, hein, des médecins le disent, il y a eu que quand un patient exprime une demande d'aide à mourir en utilisant ce mot simplement, les médecins n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte parce qu'ils considèrent que ça ne rentre pas dans le champ lexical voulu, approprié, pour qu'ils puissent entendre cette demande. Et je pense qu'à simplifier quelque part ce vocabulaire, et je pense que le Parlement va en discuter et que ça pourra évoluer, on va aussi répondre à des patients qui n'ont pas forcément cette culture médicale.
Jonathan Denis, est-ce que vous auriez aimé qu'il utilise ces mots-là ?
Bon, je vous dire, aide à mourir, moi je serais content qu'il utilise aide à mourir, mais il faut être honnête, et là-dessus je vous rejoins, une euthanasie est une euthanasie, un suicide assisté est un suicide assisté. Moi, entendre Emmanuel Macron et Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, nous expliquer que c'est une loi sur l'aide à mourir, mais pas sur le suicide assisté ou pas sur l'euthanasie, il faut arrêter de se moquer du monde. C'est un suicide assisté modèle type Oregon, par exemple, vous avez une prescription médicale, vous rentrez chez vous aux États-Unis, c'est ça. Pronostic vital engagé à 6 mois, maladie incurable, souffrance réfractaire, prescription médicale, vous rentrez chez vous avec un médicament, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Dans l'Oregon, dans 2/3 des cas, ils le prennent. La problématique, c'est que vous le prenez tout seul. Et là, on n'est pas dans un esprit de fraternité. Parce que parfois, vous avez des décès dans l'Oregon qui mettent 4 jours à arriver, 4 jours d'agonie seul chez soi. Mais c'est un suicide assisté. Ensuite, il y a une exception d'euthanasie. Le président ne veut pas employer ce mot-là, mais c'est ça. Quand vous n'êtes plus capable de faire le geste, un soignant vous accompagne ou un proche, par exemple, peut vous apporter le verre d'eau à la bouche. Il y a cette demande de proches, d'aidants qui existent. Mais il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ça permet de clarifier les choses et d'avancer dans le débat.
Alors, on va vous soumettre à tous les trois une archive. Ça remonte à 2021. Une histoire assez poignante autour d'une femme atteinte de la maladie de Charcot qui est partie se suicider, donc demander un suicide assisté en Suisse. Regardez.
Tout commence il y a 2 ans, quand la santé de sa mère se dégrade. Après plus d'un an d'examen, le diagnostic tombe, maladie de Charcot. Une maladie neurodégénérative incurable, avec une paralysie progressive des muscles jusqu'à l'étouffement.
Dès qu'elle a su qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot, ça a été... on le savait, elle nous l'a dit, elle voulait pas aller plus loin. Enfin, elle voulait pas, du moins, aller au bout de la maladie. Elle voulait pas s'infliger ça, en fait. Elle voulait pas se voir se dégrader.
Sa mère entame de longues démarches pour un suicide assisté, une pratique interdite en France. Elle décide alors de partir mourir en Suisse.
Elle a choisi sa date environ 3 à 4 semaines avant de s'en aller définitivement. Mais en fait, elle était soulagée jusqu'au dernier moment. Elle comptait, en fait, c'était un compte à rebours pour elle. Enfin, elle comptait le nombre de dodos qui lui restaient la dernière semaine. Parce que pour elle, c'était synonyme de délivrance, en fait.
Anne de la Tour, est-ce qu'on peut quand même accepter de déléguer à d'autres pays de prendre en charge une telle décision ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme là aussi de délégation, un peu de déresponsabilisation.
C'est le malade qui fait son choix d'aller dans un autre pays. Mais en France, en soins palliatifs, on traite tous les jours des scléroses latérales amyotrophiques. Et d'ailleurs, les malades qui sont atteints de cette maladie en ont marre qu'on les stigmatise.
La maladie de Charcot.
La maladie de Charcot. Oui, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas du tout dans cette dynamique. Et nous pouvons faire, dans un pronostic évidemment à court terme, une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès pour les scléroses latérales amyotrophiques s'ils acceptent d'enlever leur ventilation non invasive. Et ça, on le fait souvent.
Les soins palliatifs, il y en a peu, il n'y en a pas suffisamment.
Ah, mais écoutez, à Jeanne Garnier, on a toujours des places vides. Hein.
Mais dans toute la France.
Ah, dans toute la France, il manque des unités de soins palliatifs, 21 départements n'en ont pas. C'est sûr qu'il faut donner des moyens aux soins palliatifs. Ce n'est pas une loi qui va régler des problèmes, parce que ça reste mourir par une loi qui provoque la mort ne résoudra pas le problème de la mort. Faut pas être dans l'utopie. La mort, c'est un processus qui est difficile, c'est un processus qui doit être accompagné en interdisciplinarité, avec des psychologues. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas une loi qui va régler le problème. En tout cas, il ne faut pas être dans cette utopie. C'est très lobbyiste.
Pardonnez-moi, quand on parle effectivement des SLA, la maladie de Charcot, dites les malades n'ont pas envie d'être stigmatisés. Et je partage avec vous, mais vous avez aussi de nombreux malades. Et je prends l'exemple de la réaction de l'association de recherche sur la SLA qui dit qu'effectivement, cette loi peut aller dans le bon sens à condition qu'on revienne sur la question du pronostic à moyen terme. J'accompagne
avec. C'est quoi un pronostic à moyen terme?
Je pose la question.
Je ne sais pas.
Moi, je demande au président.
La ministre a dit 6 à 12 mois.
La ministre peut dire 6 à 12 mois. Mais alors, qu'est-ce qu'on va répondre? On prend l'exemple de la maladie de Charcot ou de la sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'on va répondre aux personnes qui demandent cette aide à mourir, qui ont ces souffrances réfractaires? Votre pronostic vital, c'est 14 mois. Aucun médecin ne pourra le dire. Revenez dans 2 mois, souffrez encore un peu. Enfin, qu'on soit pour ou contre, les médecins vous le disent, ils sont incapables de donner un pronostic vital à quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative.
Mais vous avez raison, Jonathan. Le pronostic à moyen terme n'est pas possible pour des médecins. Moi, je passerais mon temps à me tromper. Si je dis, il en a pour 6 mois, il en a pour 1 an, enfin franchement, déjà, pour le court terme, 8 à 15 jours, c'est compliqué. Mais franchement, 6 mois à 1 an... C'est encore plus compliqué. Alors, je ne dis pas que ces malades-là ne sont pas en souffrance.
Il faut reconnaître leur souffrance,
bien sûr, et je suis la première. Mais sachez qu'à Jeanne Garnier, on a fait quand même toute une étude sur 2147 dossiers en études rétrospectives, c'est-à-dire ce qui était tracé dans les dossiers, et seulement 6 malades faisaient des euthanasies persistantes.
Oui. Mais dans le comité d'éthique, vous avez très bien dit, 9% des soins palliatifs font des demandes d'aide à mourir, 3% persistantes, mais il n'y en aurait même qu'une seule. Une seule demande persistante. Énorme. Ça prouverait que la loi n'accompagne pas. Et je n'oppose pas les soins palliatifs, vous faites un travail formidable, il faut beaucoup plus de moyens et ce n'est pas suffisant.
Alors c'est vous qui l'avez soulevé, Jonathan, c'est fantastique, ce n'est pas 3% de demandes d'euthanasie, c'est 0,3% de demandes d'euthanasie qui persistent.
Le comité d'éthique
sur notre étude.
Mais je vous dis, même une seule, ça prouverait qu'il faut changer la loi.
Nathalie Rollin, est-ce que Jonathan Denis évoquait la nécessité d'une clause de conscience pour les médecins qui peuvent considérer que leur vocation, leur mission, en fonction du serment
Je pense qu'elle est impérative.
Et nécessaire. Vous êtes de cet avis? C'est intégré dans le logiciel mental d'Emmanuel Macron et de ce projet de loi?
C'est totalement impératif. Et par ailleurs, je pense que le projet de loi qui est présenté l'inclut de facto. C'est impératif parce qu'on ne peut pas demander à des soignants d'aller contre leur conscience, contre leurs convictions, qui peuvent être des convictions religieuses, qui peuvent être des convictions éthiques, qui peuvent être le sentiment qu'ils se font de leur serment d'Hippocrate, qui peut être leur rapport aux soins. Et je pense qu'il est impératif pour les médecins, mais aussi pour les infirmières, pour les aides-soignantes, de, effectivement, pouvoir à un moment dire « je ne participe pas, je ne participe pas, je ne peux pas le faire » ou « je suis dérangée, j'en souffrirai trop ». L'idée n'est pas du tout de faire souffrir les gens, mais bien d'alléger des souffrances indicible de la part de certains. Donc je pense que ça ne se discute même pas. En fait.
Le président de la République a beaucoup consulté, notamment les représentants des grandes religions monothéistes, et il se retrouve, chose rare aujourd'hui, contre ce texte. Écoutez l'évêque de Nanterre, Mgr Mathieu Rouget.
Si nous pouvons vivre en société, c'est parce que nous faisons collectivement le choix de respecter la vie de chacun de nos semblables. On ne peut pas parler de fraternité quand on répond à la souffrance par la mort. Nous ne sommes pas contre le progrès, nous sommes pour le progrès en humanité. Et le progrès en humanité en France aujourd'hui, ce serait un plan massif sur les soins palliatifs.
Anne de la Tour, tout le monde se retrouve en fait sur la nécessité de plus de soins palliatifs et il y a un plan décennal qui va être mis en place, en tous les cas plus de moyens. Mais c'est vrai pour... on aimerait bien vous entendre sur ce que disait Jonathan Denis. Est-ce, pourquoi opposer les deux, soins palliatifs et aide à mourir? On n'a pas l'impression qu'il y ait forcément une incompatibilité entre les deux.
Mais parce que tout le monde pense accompagner et on a le même objectif. On veut soulager les malades, ça c'est sûr. Mais la philosophie des soins palliatifs, c'est de respecter la mort comme un processus naturel, c'est-à-dire de ne pas provoquer la mort. Dans les années 80, il y avait les cocktails lithiques, c'est-à-dire on faisait mourir, parce que les soins palliatifs n'étaient pas connus, on faisait mourir. Et les soins palliatifs sont nés, avec rébellion, de ces mauvaises pratiques. Et là, j'ai l'impression qu'on revient en arrière. On revient en fait sur le fait, allez, je te mets ta perfusion, et hop, tu vas mourir. Donc, on n'est plus dans une dynamique de progrès.
C'est tout de même très encadré.
Très encadré.
Là, ce qui est décidé, on a vu les conditions, ça vous semble insuffisant. Il faut qu'il y ait un consentement, il va y avoir quand même un personnel médical qui va être
sollicité. Un consensus médical.
Un consensus médical, oui. Moi je me rapproche de Jean-Luc Romero, ce que j'ai entendu l'autre jour, mais je ne sais pas ce que vous pensez, Jonathan. Je suis très surprise que ça soit une collégialité médicale. Enfin, je veux dire, on est là à dire, attention, il ne faut pas que le médecin décide, c'est le malade, etc. Puis là, tout d'un coup, les médecins, on est mis en position de décision. Mais attendez, c'est le malade qui voit, nous on est là pour dire, oui, il y a une maladie incurable peut-être.
Mais par contre, je vous rassure, personne ne vous obligera à accompagner dans une quelconque aide à mourir.
Merci,
vous ne l'interdisez
Jonathan.
Pas aux autres.
C'est
Merci.
Alors, Jonathan Denis, vous êtes très rassurant. Alors, on va évoquer avec Anna la question des limites pour empêcher un certain nombre de dérives.
Oui, et notamment avec une histoire emblématique que vous connaissez peut-être, celle de Jacqueline Jeanquel, une Française qui, en 2022, a décidé de mettre fin à ses jours à 78 ans. À ce moment, elle ne souffre d'aucune maladie incurable. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais elle estime qu'elle est trop vieille. Elle raconte d'ailleurs longuement dans son blog, qui est hébergé par le journal suisse Le Temps, les raisons de cette décision. Je la cite, « Quel luxe, j'ai vécu la vie que j'ai voulu vivre, j'ai 78 ans, pas 48, ni 58, ni même 68, c'est assez, non. Je suis une hédoniste qui peut choisir le moment de sa mort. » Alors son ami, le journaliste et militant de l'ADMD, votre association Thomas Mizrahi, vient de publier un livre, Le Dernier Soir, dans lequel il raconte la dernière soirée de Jacqueline Jeanquel. Elle s'est procuré elle-même le médicament létal et lui l'a accompagnée dans la mort à son domicile à Paris. Pour cela, il risque la prison et même 100 000 euros d'amende, entre autres. Et il a par ailleurs décidé, lui, qu'il mourrait à 75 ans. Sa mort, il la souhaite belle et paisible, sans dépendance ni dégradation mentale et physique. Alors, cette vision de la vieillesse comme une maladie irréversible et invalidante, hein, ce sont les mots de Thomas Mizrahi, elle est décriée par l'avocat et essayiste Erwan Lemoredec. Selon lui, c'est la porte ouverte à l'eugénisme que de permettre à certains de mourir sous prétexte qu'ils ne sont plus utiles à la société. Alors, dans une tribune qui est parue dans le Figaro, il liste ceux qui, dans ce sillage, pourraient à terme bénéficier du suicide assisté, les déficients mentaux, les dépressifs, les handicapés. Jonathan Denis, sur l'histoire de Jacqueline Jeanquel, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, surtout, faut-il mettre des limites plus claires dans ce texte de loi pour éviter des dérives?
Alors déjà, je laisse M. Lemoredec à ses outrances. Pour vous répondre, très clairement, Thomas est un ami, Jacqueline était une amie. Jacqueline a décidé, personne n'a accès au dossier médical de Jacqueline Jeanquel. Elle a mené un combat, voilà. C'est pas le combat aujourd'hui que je mène avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Jacqueline a usé de sa liberté, elle l'a fait, elle a été accompagnée par Thomas. C'est une question que je connais très bien puisque j'ai accompagné moi-même mon père, mais qui avait un cancer généralisé. Dans ce cas-là, je sais ce qu'est l'accompagnement jusqu'au bout, le non-abandon et tenir la main jusqu'au bout. Jacqueline a incarné un autre combat à un moment donné. Elle a été vice-présidente de l'ADMD. Moi, je respecte ce qu'elle a été, sa décision, mais ce n'est pas aujourd'hui l'objet du projet de loi.
Et aucun autre pays au monde,
aucun pays au monde n'a légiféré dans le cas souhaité par Jacqueline. La vieillesse n'est pas une maladie. Il faut être très clair.
Ni un naufrage.
La vieillesse peut entraîner des pathologies, évidemment, des pathologies incurables, mais ce n'est pas le cas d'une vieillesse comme une maladie.
Je dirais qu'on pourrait ajouter que le suicide est libre. Chacun a le droit de se suicider, quel que soit son âge. Ce n'est pas réservé aux gens qui ont 78 ans. Ça peut... Et donc ça, il n'y a pas de... La problématique, c'est effectivement, est-ce que c'est médicalement encadré ou pas? Et dans quelles conditions, effectivement, on dépénalise cet acte pour un éventuel soutien.
Là, c'est la question de la participation.
Parce que la différence entre un suicide fait et décidé en son âme inconscience et un suicide assisté ou une aide à mourir, c'est que l'État se fait le bras armé, bienveillant, compassionnel, entre guillemets, de cette mort-là, de ce suicide assisté. C'est toute la différence.
Cette loi, je dirais, protégerait la personne qui a tenu la main, de la personne qui voulait se suicider, qui apparemment l'a assumée. Alors cette histoire, j'en ai entendu parler, mais je ne la connais pas aussi bien que... Bon, est-ce que pour autant il est condamnable et pénalement condamnable? Moi, j'avoue que
est-ce qu'on a vu dans certains pays, c'est vrai que c'est une évolution de la loi. Peut-être que c'est ce que vous allez nous dire, Anne de la Tour. C'est vrai qu'en Belgique, par exemple, aujourd'hui, c'est ouvert aux mineurs, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Est-ce que ça, c'est une crainte que vous exprimez en vous disant, à un moment donné, on va étendre le champ au-delà de ce qui est souhaitable?
Ben complètement, ça interroge le mal de vivre aussi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, en étant âgés ou en étant malades, ont un mal de vivre. Et j'ai bien vu dans le texte de M. Macron qu'il y a aussi les souffrances physiques et psychique. Donc psychique, moi je vois quand même beaucoup de malades, ça fait 30 ans que je les soigne, et franchement, on a besoin de psychiatres, parce que pour une dépression, on fait appel à un psychiatre quand même, et quand on voit qu'une fois qu'il a pris son traitement antidépresseur, la personne va mieux, ça interroge quand même la souffrance psychique. Alors moi je voyais un peu les... avant de venir, j'ai essayé de regarder, par exemple au Canada, en 2022, il y a 3 suicides assistés pour 13 000 euthanasies. On sait bien que les pays qui ont légiféré sur l'euthanasie augmentent leur taux d'euthanasie. Et entre le 1er avril 2022 et mars 2023, cela représente 6,8% du total. Donc s'il y a une même progression, il y aurait 12% des décès, soit plus d'une personne sur 10, qui pourrait être euthanasié. C'est un vrai souci. Moi, je ne suis pas contente de ça.
Jonathan, pardon, je ne voulais pas vous couper, mais Jonathan Denis, la question du consentement, le mot a été évoqué à maintes reprises, et le consentement exclut donc d'emblée, dans l'idée de ce projet de loi d'aide à mourir, des malades atteints d'Alzheimer, qui sont en état neurodégénératif avancé. Qu'est-ce que ça vous inspire?
On a été très clair. Le président de la République a mis une ligne rouge. Nous, on a été très clair dessus. Il a dit très clairement dans son interview, il n'y aura pas pour les maladies neurodégénératives Alzheimer. Moi, je suis très clair là-dessus. Se pose alors la question des directives anticipées.
Oui, voilà. Et alors ?
Ça, c'est au législateur, effectivement, de nous dire, dans le volet droit des patients, quid des directives anticipées, parce qu'il y a beaucoup à en dire, et donc quid de directives anticipées qui auraient été faites quand la personne a absolument son consentement plein et entier. Ça, c'est au législateur de répondre. Et juste pour vous répondre, madame, je crois que quand une telle loi existe, et une nouvelle fois, de nombreux malades vous le disent, ils sont rassurés, in fine, de savoir qu'ils seront accompagnés comme ils le souhaitent. Alors effectivement, ils vont vivre peut-être un petit peu mieux derrière parce que la loi les accompagne. Ils n'auront pas à partir à l'étranger ou ils n'auront pas à se suicider violemment.
Nathalie Rollin, est-ce que cette loi va certainement bouger? C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs points dans le projet de loi. Ça sera possible dans les EHPAD?
Je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur les lieux. Il se trouve que si vous parlez des hôpitaux, les hôpitaux vont vous dire qu'ils ont beaucoup de mal à organiser, pour le moment en tout cas, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et donc ils ne le font pas. Ils renvoient l'affaire aux unités de soins palliatifs, en règle générale, qui sont insuffisants, mais qui le font plus volontiers, même si pas si souvent, que l'hôpital. Et à domicile, c'était très longtemps juste impossible, puisque simplement le médicament, dont j'ai oublié le nom, vous pourriez me le donner,
Midazolam,
n'était pas disponible en ville, pour faire une sédation profonde, comme c'était possible, comme la loi le prévoyait, il fallait des soignants, il fallait un accompagnement, parce qu'il fallait à nouveau, il fallait être sûr que la personne n'allait pas se réveiller, tout de même. Donc les EHPAD, je dirais que c'est un lieu de vie comme un autre, qu'il n'y a pas de stigmatisation à avoir sur les EHPAD, et que si une personne se retrouve avec des souffrances incurables en EHPAD, il n'y a pas de raison qu'elle puisse être exclue de quoi que ce soit.
À suivre. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.